Chapitre 3. Pourquoi luttons-nous contre le sommeil? Le sommeil est indispensable. Il restaure l'immunité, reconstitue nos forces, nous permet de mémoriser tout ce que nous avons appris et d'analyser les nouvelles informations. Il est aussi essentiel de bien dormir que de manger, de pratiquer une activité physique régulière ou de prendre soin de sa santé mentale. Et pourtant, notre intellect nous a fait croire que nous pouvions nous passer de sommeil. Se coucher tard. En tant que nourrissons, nous dormons exactement quand et aussi longtemps que nous en avons besoin. Il se peut que nous ne dormions pas toute la nuit parce que d'autres besoins, comme se nourrir ou éviter un danger, nous réveillent. Mais il est très difficile de priver un bébé de sommeil. Très vite pourtant, l'envie de lutter contre le sommeil se fait sentir. Les enfants sont excités à l'idée de se coucher tard. Être autorisé à rester debout après l'heure du coucher est considéré comme un plaisir à part. Pourquoi? Il ne faut pas oublier que lorsqu'un enfant se couche tard, il bouleverse son rythme naturel, son sommeil est perturbé et il en souffre. Offririez-vous une cigarette à votre enfant pour lui faire plaisir? Non, c'est pourtant quasiment la même chose. Nous avons montré que mal dormir causait de graves problèmes médicaux plus tard dans la vie. La meilleure chose qu'un parent puisse faire pour son enfant est de le protéger de ses risques. Et pour ce faire, une seule solution, l'aider à bien dormir, toutes les nuits. À l'adolescence, l'envie de se coucher tard devient encore plus impérieuse. C'est une source de fierté. C'est à qui sera capable de passer une nuit blanche. Comme si se priver d'une nuit de sommeil était intelligent ou difficile. Refuser à son corps et à son esprit la possibilité de se restaurer et de se reconstruire serait donc admirable? C'est la punition la plus stupide que l'on puisse s'infliger. Nous sommes pourtant tous passés par là. Et si c'était justement ça, l'attrait? C'est comme si nous devenions masochistes à l'adolescence. L'alcool, les cigarettes et les autres drogues sont autant de poisons que l'on choisit de s'infliger pour se sentir adulte et libre. En réalité, nous tombons dans un piège et devenons esclaves de la drogue, des troubles du sommeil et de nombreuses autres habitudes délétères, souvent pour le reste de notre vie. Je ne dis pas que les jeunes devraient vivre comme des moines, mais il est important de comprendre comment nous avons appris à déconsidérer le sommeil. Nous l'avons longtemps négligé, et nous ne savons plus aujourd'hui comment résoudre nos problèmes. L'éthique du travail. Nous vivons une période incroyable. Les avancées technologiques nous offrent un confort de vie inédit et la possibilité de moins travailler. Au regard de l'histoire, nous nous estimons chanceux de ne pas vivre à une époque où tout était fait à la main, où les gens souffraient de maladies terribles et où la vie dans son ensemble était plus difficile. Nous pensons avoir progressé. Nous pensons avoir un meilleur niveau de vie. Mais nous nous voilons la face. L'adulte moyen travaille plus longtemps aujourd'hui qu'il y a 100 ans. Malgré les inventions qui permettent d'économiser la main-d'œuvre, nous sommes mis en compétition avec nos collègues et nous nous sentons obligés de travailler plus qu'eux pour obtenir une promotion ou simplement éviter d'être accusés de paresse. En 1910, l'adulte américain bénéficiait de 8,25 heures de sommeil par nuit en moyenne. Aujourd'hui, ce chiffre tourne autour de 6,75 heures. L'impact sur notre santé et notre bien-être est frappant. Démence, Alzheimer, Parkinson, cancer, maladies cardiaques, diabète. Quand les générations futures regarderont en arrière, elles seront frappées par nos privations et les terribles maladies dont nous souffrons. Ou peut-être continueront-elles à foncer billes en tête dans cette spirale infernale, bercée par l'illusion du progrès. Les adultes ne sont pas les seuls à manquer de sommeil. À partir de l'âge de 5 ans, les enfants dorment 2 heures de moins par nuit qu'il y a 100 ans. 2 heures. C'est près d'un quart du sommeil dont un enfant a besoin pour être en bonne santé. Si on les privait d'un quart de leur portion alimentaire journalière, ce serait considéré à juste titre comme de la maltraitance. Du fait du mode de vie moderne, plusieurs générations ont grandi avec une alimentation contenant des additifs artificiels, des arômes, du sucre raffiné et autres féculents industriels. Autant de produits qui ne méritent pas le nom de nourriture. Cette junk food, dont l'épidémie d'obésité est la conséquence, est un tout autre problème, sauf lorsqu'il est question de troubles du sommeil. Que les enfants veuillent se coucher tard est tout à fait naturel. C'est une manière de couper le cordon ombilical et gagner en indépendance. Ils veulent se coucher plus tard et se réveiller plus tard. Le problème, c'est qu'ils ne sont autorisés à faire que l'un des deux. Le matin, ils n'ont pas le temps de rattraper ce manque de sommeil. Des recherches ont montré que le cerveau d'un enfant ne fonctionne à plein régime qu'à partir de 10 heures. L'école commence pourtant une à deux heures plus tôt. Nous exigeons que nos enfants soient de plus en plus performants sans respecter l'outil dont ils ont le plus besoin pour apprendre. Ne plus se lever avec le soleil comme le faisaient nos ancêtres serait le signe d'une société plus civilisée. Nous avons décidé qu'il était préférable de nous rendre au travail à la même heure, tous les jours de l'année, en interrompant notre sommeil au moyen d'une alarme. Nous sommes la seule espèce sur Terre à fonctionner ainsi. Certaines tribus sur Terre vivent encore au rythme du soleil. Ses membres ne comprennent pas que l'on puisse interrompre une nuit avant qu'elle ne soit complète. Devinez quoi ? Seuls 1 à 2% d'entre eux souffrent d'insomnie, contre 30% dans le monde dit « développé ». Une fois encore, c'est notre intellect qui est à l'origine de cette situation. Les horaires de travail et d'école sont planifiés en fonction de ce que l'on pense être bien, jamais en fonction des rythmes naturels, du lever et du coucher du soleil par exemple, ou de notre besoin fondamental de faire des nuits complètes. Lorsque le travail s'accumule, le sommeil est la première variable d'ajustement. Tous accros aux écrans ? La révolution numérique a changé nos vies de bien des façons, et souvent pour le meilleur. Pendant la pandémie de Covid-19, par exemple, la possibilité de communiquer depuis chez soi a été une chance formidable. Nous avons pu nous isoler tout en restant en contact avec les autres. Cela nous a permis de continuer à travailler, d'avoir des nouvelles de nos familles et nos proches. Les enfants ont pu continuer à apprendre et le commerce a tourné. Mais les outils numériques ont des effets désastreux sur notre sommeil. Il nous est très difficile de nous détacher des écrans. Les applications sont conçues pour être aussi addictives que des drogues. De plus en plus de personnes contactent nos centres pour demander de l'aide pour lutter contre la dépendance numérique. On a sans cesse peur de manquer quelque chose. Cette crainte a été baptisée FOMO, pour Fear of Missing Out. Ce trait humain naturel a été exploité par les réseaux sociaux pour nous garder rivés à nos appareils jour et nuit. Pourquoi est-ce un problème ? Deux raisons principales ont été identifiées. La première est la lumière bleue émise par les écrans des smartphones et des tablettes. Cette lumière retarde la libération de la mélatonine, l'hormone qui déclenche le réflexe de sommeil. En d'autres termes, l'utilisation des écrans vous maintient éveillé la nuit, alors que naturellement vous auriez envie de dormir. La lumière bleue perturbe également le sommeil paradoxal, le sommeil des rêves, au cours duquel nous traitons les informations et nettoyons les toxines du cerveau. Ainsi, la lumière bleue est une menace pour la santé mentale à long terme. La deuxième raison est que cet usage obsessionnel est source d'anxiété. Nous vérifions en permanence nos téléphones par peur de manquer quelque chose que nous jugeons important. Un mémo professionnel, le message d'un ami, une blague qui fait le tour du monde, une information. Si vous gardez votre téléphone ou votre tablette près du lit, vous souffrez probablement de ce que l'on appelle l'anxiété par anticipation. Lorsque vous vous réveillez, vous pensez déjà au moment où vous consulterez votre téléphone pour voir ce qui se passe. Dès qu'il s'allume, un flot massif d'informations afflue vers vous. Votre cerveau doit tout absorber ou faire le tri entre ce qu'il vous faut retenir et ce qu'il vous faut ignorer. Un véritable défi. C'est extrêmement stressant et mauvais pour le sommeil. Parlons maintenant de stress. Le stress. Comme travailler tard et se priver de sommeil, être stressé est vu comme quelque chose d'admirable. Quand on s'exclame « Waouh, ça doit être stressant pour elle », on sous-entend souvent « Waouh, elle doit être quelqu'un d'important ». C'est comme si nous avions fait du stress un signe d'intelligence, de force de travail, d'influence. De nombreux emplois qui requièrent d'avoir toutes ces qualités sont stressants, bien sûr, mais nous avons fini par partir du principe que l'inverse était également vrai. Si vous n'êtes pas stressé, vous ne pouvez pas être intelligent, travailleur ou influent. Cela n'a aucun sens. On passe pourtant la moitié de son temps libre à tenter de se relaxer. On essaie le yoga, la méditation, le fitness, le sport, la danse, la musique, toutes sortes d'activités destinées à apaiser cette terrible malédiction qu'est le stress. Il faudrait savoir, le stress est-il une bonne ou une mauvaise chose ? En fait, les deux affirmations sont vraies. Le stress est une fonction parmi les autres de l'incroyable machine qu'est le corps humain. Il s'agit d'un mécanisme de survie qui se déclenche lorsque nous sommes en danger. Le stress provoque la libération d'hormones qui augmentent le rythme cardiaque et envoie plus de sang vers les muscles. Cela nous permet d'être prêts à courir ou nous battre si nécessaire. Sans le stress, à l'époque préhistorique, nous aurions été une proie facile pour le tigre à dents de sabre. Une autre espèce dominerait sans doute aujourd'hui la Terre. Ce mécanisme devient une mauvaise chose lorsqu'il se déclenche alors qu'il n'y a pas de réelle menace pour la survie. La pression au travail, les problèmes sentimentaux, le trac. Quand on parle de stress, toutes sortes de situations viennent à l'esprit. On y est confronté tous les jours. Nous ne réagissons pas à ces problèmes comme on le ferait face à un tigre à dents de sabre, par la lutte ou la fuite. Mais le système nerveux central réagit de la même manière, en augmentant le taux d'hormones sécrétées. Ce ne serait pas un problème si cela restait ponctuel. Mais nous vivons des situations stressantes tous les jours. Les effets sur le sommeil en sont dévastateurs. L'état d'excitation permanente provoqué par les hormones du stress retarde l'endormissement. C'est aussi une source d'anxiété nocturne, ce qui nous réveille la nuit. Le manque de sommeil ajoute une couche de stress supplémentaire. C'est un cercle vicieux. La seule façon de le briser est de limiter ou d'éviter les situations stressantes, dans la mesure du possible. L'usage excessif des outils numériques, qui maintient des niveaux de stress élevés, semble bien inutile. L'anxiété. L'anxiété est étroitement liée au stress. Le stress est une réponse physique à des menaces extérieures, tandis que l'anxiété est un état mental qui peut être provoqué par le stress ou par des inquiétudes d'ordre psychologique. Des problèmes réels peuvent être source d'angoisse, comme le fait de gagner assez d'argent pour s'acheter de la nourriture et avoir un toit. Il peut s'agir aussi de problèmes imaginaires, comme penser que nos amis ne nous aiment pas ou que notre patron nous trouve incompétent, alors que rien ne vient le confirmer. L'anxiété est, elle aussi, une fonction de la machine humaine. Nos ancêtres ne se contentaient pas de réagir lorsqu'ils entendaient le rugissement du tigre à dents de sabre. Dès qu'ils pénétraient dans son domaine, ils se mettaient en état d'alerte. Se préparer à quelque chose qui pourrait arriver leur donnait un avantage considérable sur leur adversaire. Mais aujourd'hui, des choses qui ne constituent pas un danger de mort pour nous, voire qui n'existent même pas, nous maintiennent en éveil. L'anxiété et le stress ne sont pas en soi mauvais, ils sont nécessaires à notre survie, mais ils semblent provoqués par des facteurs de plus en plus nocifs pour la santé. Ce sont des éléments créés de toutes pièces par l'homme, comme une surcharge de travail, la pression sociale, des mauvaises conditions de vie, le manque d'exercice physique, une alimentation déséquilibrée, des troubles du comportement ou des addictions. L'alimentation. Pour soulager le stress et l'anxiété, nous avons tendance à chercher refuge dans la nourriture. Nous appelons cela la « comfort food ». Mais c'est un cercle vicieux. Les aliments que nous devrions manger, ceux que Mère Nature a conçus pour notre santé, sont les fruits, les légumes, les noix et les graines. Ces aliments sont les meilleurs pour nous, y compris d'un point de vue gustatif. Pensez à toutes les préparations industrielles auxquelles nous ajoutons des additifs goût-fruits ou aux plats tout faits recouverts de préparations à base de légumes et d'herbes. Alors que les sucres raffinés, les glucides transformés ou les féculents sont mauvais pour notre santé. Les fruits et légumes frais, les noix et les fruits à coque sont ce qu'il y a de mieux. Les graines sont très faciles à digérer et devinez quoi, elles sont très nutritives. Est-ce qu'on pense pour autant à se réconforter avec des fruits et des noix ? Oh que non ! Mère Nature ne recommande ni les pâtisseries, ni les glaces, ni les biscuits, ni le chocolat, ni les chips, ni les hamburgers, ni les frites, ni les hot dogs, ni les sucreries. Et pourtant, nous en consommons en énorme quantité. Pourquoi les aimer tant s'ils sont si mauvais pour nous ? Tout d'abord, ils ont un impact sur notre taux de sucre dans le sang, ce qui entraîne toutes sortes de problèmes. Surtout, leur haute teneur en sucre et en sel les rend très addictifs. Qui a eu l'idée de concevoir des produits si toxiques ? Les êtres humains eux-mêmes, dans leur insatiable quête de profit. Cela fait très théorie du complot ? C'est pourtant la base de notre mode de vie. Ne soyez pas naïfs. Imaginez que vous dirigez une entreprise qui fabrique des produits alimentaires de piètre qualité. Ne feriez-vous pas en sorte d'y ajouter quelque chose pour leur donner du goût ? Si vous avez encore un doute, regardez la liste des ingrédients de n'importe quel produit industriel et demandez-vous pourquoi les niveaux de sucre ou de sel sont si élevés. L'industrie alimentaire manipule sciemment le sucre raffiné, les féculents et les glucides transformés pour leurs vertus addictives. Les deux derniers sont également utilisés pour apporter du volume aux produits. Le nombre croissant de maladies comme l'obésité, le diabète, l'hypertension ou les pathologies cardiaques est une preuve évidente de notre mauvaise alimentation. De plus en plus d'études sur les liens entre l'alimentation et le sommeil prouvent qu'une mauvaise nutrition a un impact sur le sommeil, mais aussi qu'un mauvais sommeil a un impact sur l'alimentation. Il a par exemple été démontré qu'une consommation excessive de glucides augmentait le nombre de réveils nocturnes et réduisait le temps de sommeil profond. À l'inverse, le manque de sommeil pousse à manger davantage et à consommer des aliments plus caloriques, le tout sans augmenter la quantité d'exercice que nous faisons pour brûler ces calories. Les excitants. Les excitants, comme leur nom l'indique, sont des substances qui stimulent le système nerveux central, vous rendant plus alerte et moins enclin à dormir. Ils fonctionnent de différentes manières. La caféine, par exemple, empêche l'accumulation d'adénosine, la substance chimique qui provoque l'envie de dormir. L'alcool est un sédatif, plus précisément un anesthésique. Mais il est souvent mélangé à des boissons sucrées ou d'autres excitants, ce qui crée des effets contradictoires. Les qualités anesthésiantes de l'alcool peuvent produire une forme de somnolence. Mais il ne s'agit pas d'un véritable endormissement. Vous êtes inconscient, mais votre sommeil est fragmenté et le sommeil paradoxal diminue. C'est pourquoi on ne se sent jamais bien après une nuit alcoolisée. Les hommes ont une consommation massive d'excitants. Chaque fois que l'on y a recours, on réduit pourtant ses chances de passer une bonne nuit. Il n'y a pas besoin de preuves scientifiques pour s'en convaincre. Sur les forums, les gens témoignent ressentir les effets perturbateurs de l'alcool et de la caféine sur leur sommeil. Ils ne savent pas toujours à quel point. Prenez la caféine, l'excitant le plus populaire au monde. Ses effets diminuent de 50% toutes les 5 heures environ, ce qui signifie que 5 heures après avoir bu une tasse de café, vous avez dans votre organisme l'équivalent d'une demi-tasse. Après 10 heures, vous en avez encore le quart. Ainsi, si vous buvez une tasse de café à 14 heures, vous aurez encore l'équivalent d'un quart de tasse dans le sang à minuit. Il est bien connu que boire du café à minuit n'aide pas à trouver le sommeil. Mais les conclusions de cette étude vont bien plus loin. Si vous voulez vous coucher à 22 heures, il est préférable que vous ne buviez pas de café après le petit déjeuner. Même lorsqu'on ne ressent plus les effets de la caféine au moment de s'endormir, celle-ci réduit la durée du sommeil profond, ce qui laisse une sensation de fatigue le matin. Et que fait-on pour se réveiller? On boit une tasse de café corsé. Plus nous sommes fatigués, plus nous avons tendance à consommer d'excitants pour contrer les effets de la fatigue. Un autre cercle vicieux. Qu'il s'agisse de café, de thé, de chocolat, de gâteaux, de boissons énergisantes ou gazeuses, d'alcool, de tabac, de compléments alimentaires ou de drogue, le coup de fouet recherché est inévitablement suivi d'un coup de barre. Passer d'un extrême à l'autre de la sorte a un impact sur les récepteurs du cerveau, ce qui finit par perturber le processus naturel du sommeil. Plus nous avons recours à des excitants comme la caféine, moins ils sont efficaces. Avez-vous remarqué comme les gros consommateurs de caféine ont toujours l'air épuisés? Ils boivent du café pour se débarrasser de leur fatigue, sans se rendre compte que ce bombardement quotidien est à l'origine de leur épuisement. C'est comme essayer d'éteindre un incendie avec de l'essence. Souvent, nous consommons des excitants sans même nous en rendre compte. Le sel et le sucre raffiné, ajoutés aux aliments et aux boissons, en font partie. Il existe d'autres substances moins connues, comme le guarana, la taurine ou la carnitine, qui ont un effet similaire. Cette dépendance aux excitants est l'une des causes majeures de l'épidémie mondiale d'insomnie. Nos choix. Dans le chapitre suivant, nous étudierons en détail le cercle vicieux de la fatigue et de l'insomnie, et la manière dont nous nous retrouvons piégés dans un cycle de privation de sommeil. Le but de ce chapitre-ci est de montrer que ce sont en grande partie nos choix de vie, ce que nous mangeons et buvons, l'heure à laquelle nous nous couchons, celle où nous nous réveillons, la manière dont nous nous connectons au monde, notre comportement au travail, qui perturbe notre sommeil. Nous ne sommes pas faits pour souffrir d'insomnie. Au contraire, nous sommes programmés pour dormir aussi naturellement que nous respirons. Mais l'intellect humain a fait des choix qui perturbent le sommeil. Et ce même intellect nous dit qu'il est normal de continuer dans cette voie. Pour espérer renouer avec de bonnes nuits de sommeil, tout cela doit changer, n'est-ce pas? Cela semble simple sur le papier, mais dans la vraie vie, c'est une autre affaire. Si c'était si simple, vous l'auriez déjà fait, non? Pourquoi sommes-nous si accrochés à des comportements qui nous font du mal? Pourquoi nous est-il si difficile de revenir au mode de vie que la nature a conçu pour nous? Pourquoi cela nous semble-t-il si farfelu? Le mauvais équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les troubles alimentaires, la dépendance aux excitants et aux smartphones sont autant de pièges qui répondent au même mécanisme que les problèmes de sommeil. Pour vous libérer, vous devez être conscient de ces mécanismes et comprendre comment ils fonctionnent.